Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kaoutar Archi.
C'est parti!
En avoir ou pas, c'est le nerf de la guerre et de la domination. Cette semaine, on va parler de thunes, de cash, de mailles et donc d'argent avec Kaoutar. Salut!
Salut Clémentine!
Alors, pour se lancer directement dans les news féministes de la semaine, je te laisse commencer.
Alors, faute de moyens, 40% des appels qui ont été passés au 3919, la ligne qui est dédiée aux violences conjugales, n'ont pas pu être traités en 2020, selon une information du Point. Il y a donc eu une hausse de 70% des appels. C'est une news féministe, comme on les déteste.
En temps normal, c'est-à-dire un jour de semaine, on est à peu près à 250 appels par jour. Or, mardi, nous avons reçu plus de 1600 appels dans la journée. Et hier, plus de 1100 appels. Donc on voit que la campagne a un énorme impact sur la ligne d'écoute.
Le 3919 n'est pas un numéro d'urgence, mais un numéro d'écoute. Et bien souvent, au bout du fil, des femmes aux situations similaires.
Les femmes qui appellent le 3919 ont vécu en général plusieurs années de violence. On a des situations évidemment où les violences viennent de démarrer.
Heureusement, une bonne nouvelle, toujours dans la question des violences conjugales, oui. Puisque l'APHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, va ouvrir de son côté 3 permanences d'accueil de femmes victimes de violences conjugales. Ce sera donc à Bichat, à l'Hôtel Dieu et à la Pitié-Salpêtrière. Et cette information nous est aussi parvenue ces jours-ci. L'affaire Duhamel a été classée sans ensuite pour prescription. On vous en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Voilà, on attend la suite de cette affaire s'il y en a. Et alors, pour passer au sujet de la semaine, l'argent, qu'on en fasse étalage ou qu'on le dissimule pudiquement selon les cultures, qu'on ait privé les femmes de ressources ou qu'on leur ait confié les cordons de la bourse, d'ailleurs, l'un va parfois avec l'autre, on va voir de quels enjeux le féminisme peut se saisir lorsqu'on parle d'argent. On va d'abord faire un petit rappel historique du siècle dernier.
Effectivement, et ce rappel historique, il n'est pas particulièrement fameux, il est même un peu gênant. Si, par exemple, on se rappelle que les luttes pour les droits politiques des femmes ainsi que pour les droits civils sont particulièrement articulées autour du code civil, les femmes mariées ont pu percevoir leur salaire en 1907. La loi du 13 juillet 1965... Oui, c'est bien ce que vous avez entendu, 1965, c'est toujours assez terrifiant de redire cette date-là, mais c'est bien la date à laquelle les femmes mariées ont été autorisées à travailler sans l'autorisation de leur époux et même à ouvrir un compte en banque en leur nom propre. En 1972, on a proclamé l'idée, faite loi, selon laquelle à travail égal, salaire égal. Si on continue un peu, en 1983, c'est la loi Roudy, et c'est la loi Roudy qui proclame et fait encore loi du fait de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Et une année plus tard, en 1984, l'égalité des conjoints est étendue à la gestion des biens de la famille. Donc on voit en fait à quel point ici les mesures juridiques de protection des droits des femmes et d'amélioration de leurs conditions économiques est assez tardive si on se souvient à quel point en fait la question des luttes est précoce par rapport à ces enjeux-là. Et Clémentine, tu vas nous refaire un historique de ces luttes féministes pour le pouvoir économique.
Oui, surtout, on va voir à quel point ces lois ne sont souvent pas appliquées. Alors d'abord, il faut rappeler que historiquement, en tout cas en France, les femmes ont souvent servi de monnaie d'échange, puisque la famille et le couple a longtemps été l'unité principale de la société, c'est-à-dire que seul le mariage donnait un statut en société. Dans ce contexte, il fallait donc transmettre à la fois des terrains, des domaines, du patrimoine, donc des biens, de l'héritage, et selon qu'on était l'aîné de la famille ou le cadet, ou bien une simple femme, on pouvait dès lors être lésé. On aura donc souvent recours à l'église pour caser les enfants qu'on appelle surnuméraires, sans donc diviser les héritages. Alors tout cela va évoluer selon les époques, des sociétés archaïques aux sociétés agraires féodales, puis à la modernité, qui est un moment où la notion d'individu va s'imposer. Sachez en tout cas, c'est assez paradoxal, que les lois ont pu être plus favorables aux femmes durant le Moyen-Âge. Ensuite, pour les filles dites bien nées, qui avaient une dot, d'ailleurs c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui dans certaines cultures, la question de l'argent est un vrai enjeu politique. Certaines vont même être dépouillées de leur dot ou de leur héritage, voire chassées de chez elles. Et donc, les femmes vont devoir bien souvent vivre sous la coupe d'un protecteur. Ensuite, au moment de la modernité, va émerger une figure qu'on appelle la mot mariée ou la mal mariée. Donc voilà, la femme qui a fait un mauvais mariage. Toutes ces informations, on peut les retrouver dans l'histoire du célibat, qui est un ouvrage de l'historien Jean-Claude Bologne.
Et effectivement, si on revient à une période un peu plus contemporaine, d'un point de vue théorique, le féminisme a beaucoup produit autour de cette question de l'argent et autour de son inégale répartition entre les hommes et les femmes. C'est particulièrement le féminisme matérialiste dont on a déjà parlé ici dans Quoi de Meuf. On peut penser aux travaux de Nicole Claude Mathieu, on peut penser aussi bien sûr à Colette Guillaumin, on peut penser aussi à Paola Tabet, et on peut penser aussi beaucoup à Christine Delphi, qui, dans un ouvrage publié en 1970 et qui est vraiment un ouvrage qui a fait référence et qui est titré « L'ennemi principal ». Dans cet ouvrage-là, Christine Delphi va développer l'idée selon laquelle il existe un système invisible qui participe grandement, voire totalement, au système d'oppression des femmes. Et ce système d'oppression des femmes, elle le caractérise comme un système socio-politique à base économique, puisque c'est le mode de production domestique qui favorise la domination masculine. Les femmes sont exploitées, on a même parfois l'expression d'esclavage des femmes au sein de l'institution familiale. Le bénéfice est extrêmement fort pour le patriarcat, et un patriarcat ici qu'on peut percevoir comme une sorte de patronat domestique, de patronat intérieur, de patronat intime, qui soumet les femmes à une organisation particulièrement dure et une organisation qui en plus leur prend la source de leur énergie, mais aussi le résultat de leurs efforts. Toujours dans cette continuité, on peut penser aussi aux travaux très importants de l'anthropologue italienne Paola Tabet, qui va notamment, dans un ouvrage intitulé « La grande arnaque », développer l'idée selon laquelle le domaine sexuel, le domaine de la sexualité, n'est pas un domaine qui échappe à la question économique. Et au contraire, selon cette anthropologue italienne, il existe quelque chose qui est absolument central et qu'elle va nommer l'échange économico-sexuel. Elle dit notamment « l'homme paye pour accéder à la femme et à son corps, ainsi qu'à sa capacité de reproduction. Et en échange, d'où l'expression « échange économico-sexuel », la femme est rétribuée, alors soit rétribuée en argent, directement, mais aussi rétribuée en d'autres choses plus symboliques, mais avec une assise matérielle extrêmement forte. Ça peut être, par exemple, des cadeaux, ça peut être, par exemple, la protection sous un toit, ça peut être, par exemple, des éléments qui accompagnent les différentes cérémonies d'institutionnalisation de la sexualité. On pense aussi, notamment, par exemple, à la dot. C'est donc un rapport qui se présente sous la forme d'un continuum. Autrement dit, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre la prostituée en tant que figure et la bonne épouse en tant que figure, mais plutôt un ensemble d'éléments qui permet d'aller et de venir de l'une à l'autre. On retrouve toujours cette question de l'argent et notamment la tentative de stigmatiser les femmes qui montreraient une sorte d'appétence pour l'argent à travers la figure stigmatisée de celle qu'on appelle la michto, la michetonneuse, ou aussi des femmes qui sont entretenues par des hommes en échange toujours de services sexuels qui leur sont directement rendus.
Une polémique pour ouvrir ce journal, une pub d'un site de rencontre est visée par le jury d'éthique publicitaire. Ce site propose en fait à des étudiantes d'être mises en relation avec des hommes riches et plus âgés.
Donc on voit bien ici, clairement à travers le féminisme matérialiste, que quelque chose d'absolument fondamental se passe entre les hommes et entre les femmes sur le plan de l'argent, mais toujours de manière invisibilisée. Et lorsque c'est visible, c'est présenté de manière honteuse et cela jette un opprobre sur la femme en question.
Oui, on est bien dans une société des services qui ne dit pas son nom.
Exactement.
Et alors justement, après les études de genre, c'est l'économie qui s'est intéressée aux questions féministes. Il y a d'ailleurs un livre publié cette année qui s'appelle « L'économie féministe », donc qui a été écrit par Hélène Périvier, qui est elle-même économiste à l'OFCE à Sciences Po, qui explique précisément que l'économie n'est pas non plus une discipline neutre et que l'apport de la pensée féministe a permis justement de révéler des biais cognitifs dans ce domaine et peut-être de mieux penser les inégalités. Donc, on peut ainsi relire l'histoire. Elle explique que le capitalisme se repose, sans toujours le dire, sur la division sexuée du travail avec donc les femmes à la maison, puisqu'on ne compte pas le travail reproductif, par exemple. Dans une interview qu'elle a donnée au magazine Challenge, elle explique bien comment on perçoit la place de la femme dans l'économie de marché, c'est-à-dire en étant liée uniquement à la famille.
Et à ce propos, l'économiste Hélène Périvier écrit « Le vrai tournant advient dans la première moitié du XXe siècle à l'occasion de l'émergence de l'État social et de ses mécanismes de redistribution. Il s'agit alors d'ouvrir de nouveaux droits, de créer des politiques publiques qui accompagnent les ménages. Cette vision du progrès encourage encore la spécialisation des rôles hommes-femmes grâce à l'allocation salaire unique, notamment. Les droits s'obtiennent donc dans le cadre du mariage. C'est cette logique de politique publique qui conduit en France notamment à la création d'un quotient conjugal, le quotient familial, et plus tard un congé parental rémunéré. On peut penser aussi aux différentes formes de pension de reversion. Les femmes sont alors rémunérées dans le cadre de la famille, mais pas à titre d'individu, mais bien à titre de femme d'eux et de mère d'eux, ce qui est donc un frein à l'émancipation, nous explique Hélène Périvier. Et elle ajoute, dans l'économie de marché, il y a une dimension qui peut être émancipatrice. La seule chose incompatible avec l'économie féministe est la pensée néolibérale, soit une idéologie qui fait de la concurrence une fin en soi dans tous les espaces sociaux.
Oui, sachez également que la revue Économie Politique a consacré un numéro entier à la question. Et alors justement, on ne considère les femmes que prises dans des logiques familiales ou matrimoniales, et c'est donc toujours le cas avec le patrimoine. On peut d'ailleurs se référer à un ouvrage qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Le genre du capital » de Céline Bessière et Sybille Golac, mettant en lumière plusieurs points à ce sujet. D'abord, les inégalités de richesse se trouvent aujourd'hui davantage du côté du patrimoine que des revenus, ce qui permet donc d'observer une recomposition des inégalités là où on ne les attend pas forcément. Ensuite, il faut bien se souvenir que la famille n'est pas qu'une entité privée ou neutre, et donc il faut vraiment réaffirmer l'importance des relations économiques au sein même de la famille. Ensuite, le patrimoine, donc c'est-à-dire le capital économique, ne circule pas n'importe comment au sein d'une famille. Et justement, c'est ce qui nous intéresse, sa circulation repose sur un traitement différencié des femmes et des hommes. Or, le contexte récent nous informe que, selon certains travaux, il a été établi qu'entre 1998 et 2014, les inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes sont passées de 9% à 16%, c'est-à-dire qu'elles ont en fait quasiment doublé. Pourquoi ? Il y a un certain nombre de raisons à ça. D'abord, il y a ce qu'on appelle une individuation du patrimoine, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu ce qu'on a appelé le régime de la communauté de biens avec le mariage, mais aujourd'hui, il y a davantage d'unions libres et de régime de la séparation des biens. Et donc, c'est un système qui va finalement pénaliser les femmes. Sachant que le contexte dont on parle aujourd'hui, c'est celui du développement du travail féminin salarié, et que dans ce cadre, certaines pratiques vont favoriser l'accumulation masculine du capital, donc privilégier voilà, la richesse du côté des hommes.
En effet, tout l'intérêt du travail de ces deux sociologues repose bien sûr sur le fait de rendre compte des inégalités économiques qui tissent la relation homme-femme, mais surtout de chercher des explications à ces formes d'inégalité. Arthur Jatteau, qui est l'auteur d'une critique fournie de l'ouvrage de Céline Bessière et de Sybille Golac, note avec justesse, et ça éclaire notamment notre questionnement, à savoir les explications de ces dernières, il parle ici des inégalités économiques, sont en effet relativement bien documentées. temps de travail moindre, métier moins rémunérateur, discrimination, etc. Si les femmes gagnent moins que les hommes, il apparaît donc naturel qu'elles possèdent moins que les hommes. Les inégalités de revenus engendrent les inégalités de capital. Pourtant, un enseignement majeur, écrit-il encore, de l'économie des inégalités est que le poids de l'héritage aujourd'hui est plus important qu'il ne l'était pendant les Trente Glorieuses. Autrement dit, si on veut expliquer les inégalités patrimoniales entre hommes et femmes, c'est davantage du côté des inégalités dans la transmission, donation et surtout succession qu'il faut chercher que du côté des inégalités salariales. C'est donc bien dans la famille que se trouvent les pistes d'explication des inégalités économiques de genre, comme le démontrent Céline Bessière et Sybille Golac dans leur ouvrage. On voit bien ici, à travers la critique qu'Arthur Jatot propose de l'ouvrage en question, à quel point la domination domestique des femmes, dont on vous parlait un peu avant, avec l'institution familiale qui va produire des écarts, qui dépassent le simple cadre privé et affectent jusqu'au niveau de possession économique des femmes. D'une certaine manière, avancent les deux sociologues, si les femmes possèdent moins, c'est parce qu'elles évoluent dans des structures solidaires les unes des autres, l'organisation familiale et l'organisation juridique de la succession, par exemple, qui sont tenues par des agents professionnels. On peut penser au notaire, par exemple, on peut penser aussi à la figure du juge, dont une partie du travail est de légitimer un partage inégalitaire des biens familiaux entre les descendants et les descendantes. On retient alors l'idée forte selon laquelle la famille et l'ensemble des personnes majoritairement masculines qui s'y situent sont destinées à perpétuer le fonctionnement et contribuent grandement à placer les femmes dans des positions dominées, donc des positions vulnérables. Donc on voit bien ici à quel point, si le travail est important, la question du salaire est fondamentale, il faut absolument enrichir cette réflexion par un aspect plus juridique qui permet d'accéder à l'aspect central, selon les deux sociologues en question, à savoir la dimension patrimoniale.
Oui, voilà. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est entre soi et en famille qu'on ne se fait pas arnaquer.
Tout à fait.
N'oubliez pas.
Exactement.
Et alors, il y a un autre sujet qu'on connaît sans doute mieux, c'est celui des inégalités salariales qui mobilise aussi la question de la domination et de la domination financière et genrée. On sait aujourd'hui que depuis les années 90, les inégalités ne se réduisent plus ou très peu. Et d'ailleurs, au rythme où on va, il faudrait encore 2234 années pour renverser la tendance, ce qui est assez déprimant. Et on sait qu'en France, en tout cas, à partir, grosso modo, de début novembre, les femmes travaillent bénévolement, puisqu'il y a toujours à peu près 15% d'écart entre les salaires.
Les inégalités salariales entre femmes et hommes persistent, et notamment en France. C'est ce que dénonce la newsletter féministe Les Glorieuses. Selon elle, depuis ce mercredi 4 novembre, 16h, c'est comme si les Françaises allaient travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année. À cause de ces inégalités.
Alors évidemment, il faut faire attention quand on utilise ces comparaisons dites à salaire égal, puisque cela masque aussi les salaires inégaux, c'est-à-dire les temps partiels, les métiers féminins qui sont largement précarisés, etc. Et c'est évidemment encore pire pour les femmes racisées et minorisées. Aux États-Unis, selon le Women's Policy Research, les femmes noires perçoivent 38% de moins que les hommes blancs et 21% de moins que les femmes blanches. En d'autres termes, donc quand un homme blanc gagne 1 dollar, une femme noire touche 69 centimes. Voilà, donc la comparaison est assez édifiante.
La newsletter des Glorieuses, par exemple, et sa verticale économique en particulier, ont fait des propositions dans ce sens. On a bien vu notamment que la grève des femmes, si c'est quelque chose de particulièrement important d'un point de vue symbolique, du point de vue du résultat et du point de vue des victoires, ça reste assez faible. On espère donc que les propositions qui ont été faites seront retenues.
Entre 2010 et 2015, il y a eu finalement un écart salarial qui s'est encore creusé. En 2010, on était à 15,1%, donc d'écart de rémunération horaire entre les femmes et les hommes. Et en 2015, donc c'est des données qui datent de 2015 mais qui ont été publiées cette année, on est à 15,8%. Donc en fait, ces inégalités se sont creusées Pourquoi ? Parce que il n'y a pas eu de politique publique, de mesures suffisamment efficientes pour endiguer ces inégalités. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des pays où il y avait une égalité salariale réelle, comme la Norvège, la Suède ou encore l'Islande, et on a remarqué qu'il y avait un trio de mesures de politique publique qui permettaient d'arriver à une égalité salariale, non pas dans 217 ans comme le World Economic Forum l'a suggéré hier, mais dans 10 ans. Ce trio de politique publique implique à la fois une obligation de transparence de publication des salaires par les entreprises. Dans un second temps, il faut qu'il y ait un congé parental qui soit équivalent pour les deux parents, parce qu'on se rend compte que si en début de carrière, l'égalité est à peu près présente entre les femmes et les hommes, elle a tendance à se creuser considérablement au moment du premier enfant. Et dans un troisième temps, il faut faire comme en Islande, il faut un certificat d'égalité délivré par l'administration publique, et c'est les entreprises qui prouvent qu'elles respectent l'égalité salariales au sein de leur structure.
On retient aussi beaucoup que ces mesures doivent être contraignantes. Il faut donc conditionner l'accès au marché public. Il faut aussi travailler à l'obtention des subventions publiques et faire en sorte que les prêts garantis par l'État au sein des structures respectent bien l'égalité salariale. On pense aussi à renforcer l'index de l'égalité en créant, par exemple, un certificat d'égalité obligatoire au sein des entreprises, qui est toujours une manière de les contraindre. On pense aussi à valoriser les salaires des métiers où les femmes sont les plus nombreuses, comme notamment les métiers du soin. C'est quelque chose qu'on a particulièrement pu mesurer à travers la crise sanitaire que nous avons connue il y a peu. 47,7% de ces emplois, on le rappelle, sont des emplois féminins.
Oui, alors quand on parle d'argent, l'exemple vertueux qui est un peu brandi à tout bout de champ, c'est toujours l'Islande, puisque depuis 2018, en Islande, donc la parité salariale est obligatoire et qu'elle est aussi contrôlée. Le pays a ainsi fait voter un texte de loi qui demande aux entreprises de montrer patte blanche et non plus aux salariés de réclamer leur dû, comme c'est souvent le cas, le tout sous peine d'amende et donc à poste égal et performance égale, même si, évidemment, ça ne règle pas d'autres questions, comme le plafond de verre ou donc l'accès au poste pour les femmes. De mon côté, j'avais également participé au podcast Splash, qui est donc diffusé chez Nouvelles Écoutes, sur cette question des inégalités salariales, et je vous invite à vous y référer si cette question vous intéresse. En tout cas, après les politiques publiques et le monde professionnel, évidemment, tout cela va se répercuter dans l'intimité des femmes et dans le couple, en tout cas dans le cas du couple hétérosexuel. D'ailleurs, la journaliste Titu Lecoq a consacré à ces questions-là un podcast très intéressant chez Slate intitulé « Rends l'argent ».
Je suis mariée avec le même homme depuis X années. Dans mon couple, on n'a pas eu de problème d'argent.
Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi ? Est-ce qu'il y avait un maître ou une maîtresse de l'argent ? À quel moment dans la vraie vie un couple s'installe à une table et parle fric ?
Dans lequel elle explique que le féminisme a toujours eu du mal à se saisir de ces questions, et c'est encore le cas aujourd'hui. Elle s'interroge sur pourquoi l'argent est encore tabou, pourquoi c'est le don réciproque qui accourt en début de relation et ensuite c'est le dû qui va s'installer. Qui paye quoi en couple ? Faut-il diviser les paiements en deux ? Ou bien, si l'un des deux, notamment l'homme, gagne plus, faut-il le laisser payer ? Faut-il avoir le fameux compte commun ? Si oui, qui s'occupe des comptes ? D'ailleurs, l'historienne féministe Michèle Perrot est interviewée. Elle raconte qu'elle gagne plus que son mari. Elle en est d'ailleurs assez fière, mais que c'est pourtant lui qui fait les comptes et qu'elle minimise ses achats, ce qui est assez fou. Et donc, tout ça mobilise effectivement le stéréotype de la femme frivole et du panier percé, hein, je mets des guillemets. Et donc, elle se demande également ce que veut dire l'expression « chef de famille » et rappelle que dans les milieux populaires, les femmes continuent de faire les comptes, tandis que dans les milieux plus bourgeois, ce sont les hommes qui contrôlent les cordons de la bourse. On sait également que lors d'une séparation, ce sont souvent les femmes qui basculent dans la précarité, pour toutes les raisons expliquées précédemment. Et on se souvient des propos très maladroits de l'éditorialiste Julie Graziani à la télévision. Je la cite, « Si on est au SMIC, il vaut mieux ne pas divorcer ». C'est vrai qu'en 1998, déjà, une étude de l'Observatoire de l'endettement des ménages révélait que le divorce était déjà l'un des facteurs principaux de précarité financière. Dans ces conditions, on comprend donc que beaucoup de femmes ne partent pas.
Et à ce propos, un ouvrage particulièrement intéressant à mobiliser pour essayer de comprendre davantage encore la manière dont l'argent, ou du moins son manque, ou du moins son inégale répartition au sein du couple, peut rapidement devenir un enjeu structurant, voire une sorte de menace pour la femme en question. L'ouvrage est le suivant, il est titré « Le couple, l'amour et l'argent, la construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse ». Et il est le fruit d'une réflexion qui a été conduite par la sociologue Caroline Henshaus. Dans cet ouvrage, bien nommé, c'est le moins qu'on puisse dire, on va poser la question des négociations, voire des luttes de préservation des intérêts individuels et donc économiques au sein de la sphère conjugale. L'argent, on le voit bien, peut rapidement se transformer en une sorte de troisième figure au sein du couple, tant sa présence, malgré le silence qui peut peser sur lui, peut devenir extrêmement forte. Le couple, l'amour et l'argent se basent donc sur l'analyse des paramètres financiers de l'histoire d'une vingtaine de couples hétérosexuels et nous sommes en Suisse. Il s'agit de comprendre comment deux individus autonomes financièrement avant leur mise en couple construisent progressivement des conceptions et des usages communs de l'argent. L'argent est pris comme un indicateur du processus de construction de ce qu'on va appeler l'équipe conjugale. Le concept de construction conjugale de la réalité du couple est hérité ici des travaux de Berger et de Kellner, mais aussi des travaux d'un sociologue que l'on connaît bien, Jean-Claude Kaufmann, qui va servir d'appui à l'ouvrage et cela de manière particulièrement heuristique. Ces mots, ce sont les mots de Frédéric Giraud, sociologue, qui, en commentant le travail de Caroline Henshaus, présente avec assez de clarté et de précision l'enjeu qui nous occupe ici, à savoir comment les femmes sont spoliées, comment la spoliation des femmes est invisibilisée et comment, dans une perspective peut-être plus politique, voire même plus militante, il est possible de mettre fin à cette spoliation. Donc n'hésitez pas à vous référer à cet ouvrage-là, il est plutôt simple d'accès et vous y trouverez des ressources qui pourront vous éclairer davantage. Dans la continuité, si encore une fois on poursuit fatalement, on se retrouve face au fisc et effectivement la question fiscale, Clémentine, n'est pas en reste.
Oui, en effet, puisque l'État va tout de même s'attacher à dépouiller minutieusement les femmes. Et donc on va voir que du côté de la fiscalité, ça coince aussi. D'ailleurs, Titu Lecoq le rappelle dans un article, il faudrait un impôt qu'on appellerait féministe, qui devrait être individualisé, puisqu'en France, on force les couples mariés à une déclaration commune qui avantage les hommes, donc les personnes qui gagnent plus et qui ont tout intérêt à ce que leurs femmes gagnent moins. C'est ce qu'on appelle le fameux salaire d'appoint, puisque de cette manière, ils vont donc payer moins d'impôts. Alors, il y a ce qu'on appelle le quotient conjugal, qui est à ne pas confondre avec le quotient familial. Et donc, ce quotient conjugal ne prend pas en compte le travail domestique, ni le soin des enfants ou des personnes âgées. D'ailleurs, en 2013, Najat Vallaud-Belkacem plaidait déjà pour une individualisation de l'impôt sur le revenu. Le motif avancé est le suivant, donc le quotient conjugal tel qu'il existe aujourd'hui dissuaderait tout simplement les femmes de travailler. Il y a d'ailleurs eu une tribune parue dans Libération qui parle même de trappe à la pauvreté. On peut y lire ce qui suit. Plus les revenus du couple tendent vers l'égalité, moins le mécanisme de quotient conjugal n'apporte de réduction d'impôts et pour un couple dont les revenus seraient totalement égaux, le bénéfice est même totalement nul. En effet, le fait de diviser par deux le revenu du couple fait retomber chaque conjoint dans la même tranche d'imposition que s'il avait été seul. Voilà, donc à tel point que les féministes comptent même porter la revendication de sa suppression pour la présidentielle de 2022. Et croyez-nous, nous porterons attention voilà, à cette revendication.
Ces derniers temps, on assiste à la montée progressive de ce qu'on appelle le « financial feminism », autrement dit le féminisme libéral, d'après le titre d'un essai de Jessica Robinson paru cette année. C'est un guide qui permet de comprendre comment investir, malheureusement. C'est en anglais, peut-être qu'un éditeur ou une éditrice décidera de s'emparer de cet ouvrage. Et selon l'autrice, selon Jessica Robinson, il existe une sorte de fossé dans l'investissement entre hommes et femmes, comme dans le fait de faire des économies, par exemple, pour sa retraite. La question de prendre le contrôle de ses finances est de plus en plus nette. C'est une manière, finalement, de s'empouvoirer par l'indépendance financière et de faire vraiment ruisseler et redistribuer les profits. Après, évidemment, que ce type de féminisme, et son nom l'indique bien, place immédiatement l'individu, chacun et chacune de nous, au cœur de l'économie de marché, ce qui pose les questions ici entre les formes de contradictions qui peuvent exister et qui me semblent être assez fondamentales entre une revendication féministe au sein d'un univers capitaliste à propension néolibérale, et cela fait encore peser sur les femmes une charge supplémentaire, à savoir celle de prendre en main des questions qui, par ailleurs, sont d'une certaine façon déjà réglées pour elles, puisque l'organisation ici est particulièrement genrée et elle le demeure malgré tout. En tout cas, voilà, ce sont des pistes qui se présentent et qui font actuellement débat.
Oui, pour aller un peu plus loin sur ces questions-là, on peut aussi écouter le podcast Ma Juste Valeur qui est proposé par LinkedIn France, puisqu'il y a effectivement de plus en plus de coachs sur ces sujets, notamment d'optimisation du budget. On rappelle qu'on a besoin d'apprendre à gérer notre argent et il ne faut pas que ce sujet reste un précaré masculin. Oui. Il y a également un épisode du podcast Travail en cours sur la négociation salariale qui se demande pourquoi les femmes sont désavantagées. Il y a aussi un certain nombre de startups, d'associations ou d'applications. Alors elles sont plutôt anglo-saxonnes. On peut recommander par exemple Smart Purse, Rain Check, The Frugality, Boring Money, Chic and Prosper, etc., etc. Et du côté des news, le site The Financial Diet. Alors cette semaine, on a reçu le témoignage de Mélanie qui nous explique son rapport à l'argent et à sa gestion.
Je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans et je suis directrice commerciale pour une société de production. J'ai pas souvenir qu'on m'ait énormément parlé d'argent. Maintenant, c'est sûr que j'avais des parents qui soit avaient leur boîte, soit en tout cas étaient dans, on va dire, le business, avaient des métiers de bureau. Et bon, très vite, j'irais plutôt au moment du choix des études, parler de l'importance de bien gagner sa vie. Et quand j'ai voulu faire des métiers moins rémunérateurs et un peu plus incertains, comme le journalisme, par exemple, ils m'ont tout de suite alerté sur le fait que j'allais probablement pas bien gagner ma vie, que ça allait être un peu précaire. Et donc je pense que cette notion, elle est arrivée un peu plus tard, mais au moment du choix des études, donc peut-être au collège, lycée. Et après, on m'a inculqué, oui, évidemment, la valeur de l'argent. Et à la fois, je pense que le fait d'avoir grandi dans des familles qui avaient pas forcément de soucis d'argent, c'est aussi, je pense, plus simple pour être à l'aise avec la question. Je dirais qu'en tant que femme, je sais pas, mais en tant que moi, et probablement en tant que femme, je me suis souvent sentie gênée de demander des augmentations de salaire dans mes différents métiers, dans mes différents emplois, et jusqu'à ce que cette question de que les femmes n'osaient pas demander des salaires, des augmentations de salaires, des promotions, commençait à apparaître un peu plus dans les médias. C'est vrai que là, j'ai compris que si tu demandes pas, tu n'as pas, et que apparemment les hommes ont moins de problèmes à demander, donc auraient plus de facto. Je dirais que en tant que femme, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je fasse beaucoup, que j'apporte beaucoup, autant humainement qu'en charge de travail, et que j'avais peut-être un rôle relationnel plus important à apporter. Après, moi, globalement, parler d'argent, c'est pas un gros mot, c'est la réalité. Je pense que, enfin, c'est la réalité de la société. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, je suis très logique dans ma pensée, et pour autant j'adore travailler dans des milieux créatifs avec des créatifs, et pour autant j'ai le cerveau fait d'une telle manière que je pense assez vite au fait que pour financer tout ça il faut de l'argent. Donc j'ai aucun problème à parler d'argent, et même avec les gens autour de moi. Je trouve que de plus en plus, on se dit nos salaires. Moi, le conseil que je donnerais par rapport à cette question-là en particulier, c'est de bien regarder déjà les fiches de salaire qu'on nous verse, de bien comprendre de quoi, comment s'articule notre rémunération. Et ensuite, quand on veut demander une augmentation, de savoir combien on veut demander, pourquoi, comment ça se justifie. Et la justification, elle n'est pas obligée d'être personnelle. Par exemple, j'ai envie de partir plus loin en vacances ou d'acheter un appart ou ce genre de choses. Elle peut juste être... plus simple que ça. J'ai envie d'améliorer mon niveau de vie, en fait, sans avoir à rentrer dans des considérations professionnelles. Et après, normalement, un bon employeur comprend que dans une évolution de carrière, on doit valoriser le travail, la progression de ses employés et donc augmenter sa rémunération au fur et à mesure. Je pense que les hommes, parfois, utilisent... on va dire des techniques d'intimidation, d'agression, un peu violentes, qui peuvent marcher. Et entre hommes, en fait, traditionnellement, c'est un langage qu'ils ont développé entre eux. Donc, je peux être désarçonnée si je me retrouve, et je l'ai été beaucoup, désarçonnée si je me retrouve avec en face de quelqu'un qui utilise des techniques agressive, qui exerce du coup une forme de domination et une forme de pression qui va me bousculer, qui va me brutaliser. C'est vrai que ça m'a beaucoup désarçonné, je peux me replier un peu et me sentir assez faible et assez impuissante par rapport à ça. Et là, ne pas être forcément très bonne en négociation. Mais plus j'avance et plus je comprends que en fait, si je sais que si le prix que je propose est le bon prix, j'ai absolument pas de raison de m'en excuser. Ou si l'augmentation de salaire que je veux demander, que je considère valoir, le salaire que je pense que mon travail vaut, j'aurais pas de problème en fait à négocier et à demander ce que j'ai si j'arrive à être calme et sereine par rapport à cette personne. Donc ça revient beaucoup à une question d'estime de soi et de savoir que son travail a de la valeur, que le service ou le produit qu'on vend a cette valeur-là et qu'il n'y a absolument pas de raison de se brader ou de faire un prix de demander un salaire qui est plus faible que ça, en fait. Et c'est ça, je pense, un des gros enjeux des luttes féministes aujourd'hui, c'est que les femmes, elles aient confiance en elles et confiance en leur valeur. Et à partir du moment où on est aligné avec ça, on est sereine, on se trouve dans une position de droit de demander le juste prix ou le juste salaire.
Merci pour ce témoignage, on en prend bonne note. Alors du côté de notre expérience personnelle, toi Kaoutar, quel est ton rapport à l'argent ?
Alors pour ma part, je considère que comme de manière générale, l'argent a plutôt tendance à manquer qu'autre chose. C'est une question à laquelle effectivement je suis assez sensible, voire même très sensible, et j'essaie au quotidien de veiller sur cet aspect. Je dis cela notamment dans une perspective peut-être un peu plus particulière ou un peu plus différente que d'ordinaire, à savoir que je ne suis pas seule. Je ne parle pas ici simplement d'homme avec lequel je serais contractuellement liée par le mariage, par exemple, mais plutôt aussi d'une famille, de ma famille, pour qui la question de l'argent reste une question tout aussi importante, voire une question de survie quotidienne. Autrement dit, je veille sur l'argent aussi parce que cet argent n'est pas que mon argent, c'est l'argent d'un collectif, ce que j'appelais par avance de collectif familial au sein duquel, disons depuis un certain temps, j'essaie de garantir, nous essayons collectivement de garantir des principes de solidarité, de partage, d'entraide, tant que cela est possible et nécessaire. Donc mon rapport à l'argent, il est plutôt double, il est à la fois déterminé par l'homme, le conjoint, par la famille que nous formons à deux, mais aussi par la famille que je formais avant et la famille que je continue de former avec ma propre famille. Ce sont des équilibres qui sont assez complexes, mais qu'il importe de maîtriser quand on est une femme, puisque notre position est malheureusement encore trop proche d'une position qui serait celle de la mendiante à l'égard des autres que de la banquière de notre propre existence, s'il fallait parler de manière un peu plus métaphorique. Donc évidemment que la question de l'argent, elle est absolument centrale, et je pense que c'est très important de réussir à faire de la question de l'argent et des ressources économiques, pas simplement une question individuelle ou une question individualisée, mais vraiment de réussir à en faire un objet collectif de lutte. Et c'est pour ça qu'on se disait auparavant, par rapport à la question de la fiscalité, par rapport à la question de l'individualisation des traitements, etc., me semble absolument nécessaire, puisqu'encore une fois, c'est en tant que femme que les femmes sont dominées. Donc c'est vraiment à ce titre-là collectif et par la lutte politique, il me semble, que les choses sont à aborder.
Alors cette image de mendiante me parle tout à fait. Effectivement, cet épisode, je pense que ça nous a fait questionner aussi notre propre rapport à l'argent. Je dois avouer que je suis un peu comme Thomas Thévenoud, le regretté Thomas Thévenoud qui souffrait de phobie administrative, c'est-à-dire que je laisse souvent le courrier s'accumuler dans ma boîte à lettres. J'ai pas tellement le réflexe de faire des économies, ni les moyens d'ailleurs, ni de payer mes impôts très très tôt. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une amie banquière qui m'explique un peu les rouages de tout ça, même si ça reste assez obscur pour moi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que chez mes parents, c'est plutôt ma mère en fait qui avait de l'argent par rapport à mon père. Donc cette logique-là assez inversée, je pense, par rapport à la norme. Et à l'époque où j'ai vécu aux États-Unis en tant qu'étudiante, déjà je n'ai jamais eu autant d'argent de toute ma vie, puisque être étudiant aux États-Unis, c'est parfois toucher une bourse assez conséquente. Et surtout, j'ai découvert un autre rapport à l'argent et un autre rapport au tabou par rapport à la France, donc c'était assez passionnant. Et une fois rentrée évidemment dans le monde du travail, je me suis rendu compte que à l'égal de toutes les autres femmes, j'étais nulle en égo salarial. D'ailleurs, jamais de ma vie je n'ai été bien payée, je pense. Jamais de ma vie je n'ai triomphé d'une négociation salariale. Et effectivement, historiquement, on sait que les femmes demandent moins à être augmentées. Et par ailleurs, dans nos cercles féministes, parler d'argent, c'est souvent mal vu ou vu comme quelque chose de honteux, puisque quand on est militant, il faut toujours faire les choses gracieusement. Donc c'est vrai que la question de la rémunération du travail militant, je pense, doit être posée à un moment. Par ailleurs, dans le monde du dating, je rappelle que payer un verre ne donne pas droit à du sexe, ne donne pas accès au corps des femmes. C'est toujours bien de le rappeler. Et pour finir, je voudrais citer cette étude qui a été menée par la banque Merrill Lynch, qui, selon laquelle 61% des femmes disent qu'elles préféreraient évoquer les détails de leur propre mort plutôt que de parler d'argent. Voilà, donc je pense qu'on a du travail à faire à ce niveau-là.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Alors pour parler de la pop culture, on se souvient évidemment de Sex and the City, une série dans laquelle l'argent n'est pas un problème et qui déploie intégralement le stéréotype de la femme dépensière, prête à se damner et à dépenser un loyer pour une paire de chaussures.
I'm an undesirable.
No, I am. The lady at the bank said I was an unattractive candidate for a loan. Where did all my money go? I know I made some.
At 400 bucks a pop, how many of these do you have? 50?
Come on.
100?
Would that be wrong?
100 times 400, there's your down payment.
Well, that's only 4,000.
On se souvient également de cet épisode où le personnage d'avocate Miranda fréquente un barman, Steve, et on voit que la différence de revenus ne joue pas en sa faveur. D'ailleurs, elle dit « Lorsque les hommes célibataires ont de l'argent, c'est à leur avantage, et lorsqu'une femme célibataire a de l'argent, c'est un problème qu'il faudrait régler ». Une autre série que l'on peut citer, c'est Succession, qui montre comment on se répartit un héritage entre enfants dans un empire des télécoms qui ressemble peu ou prou à celui de Rupert Murdoch. Il y a parmi ses enfants une fille, Shiv, qui va peut-être tirer son épingle du jeu. La série nous le dira. En tout cas, c'est une très belle série crépusculaire.
We have a major problem. He's erratic. He's making bad decisions. If he's not careful, he's going to destroy the company.
Emily, you going to do something?
I think I'm the best option.
Oh right, because you like playing boss.
J'en profite pour recommander également Industry, qui est diffusée par HBO, qui s'inscrit vraiment contre la norme masculine du monde de la finance, qui est généralement montrée dans la pop culture, avec des films comme Wall Street, Le Loup de Wall Street, etc., en montrant cette fois-ci une jeune femme noire qui débarque dans la finance à Londres. C'est une excellente série, même si on ne comprend rien au monde de la finance, et je pense que c'est d'ailleurs le problème des fictions sur les trading, puisque c'est une question très technique. Voilà, mais pour faire la transition, on peut aussi parler du morceau La Thune d'Angel qui nous ambiance en parlant d'argent.
Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger.
Effectivement, l'argent et la transparence financière, le fait d'aborder cette question-là et de la problématiser, sont devenus un vrai enjeu pour les stars et les différents influenceurs, influenceuses. Des actrices hollywoodiennes ont révélé leur salaire et celui de leur co-star masculine. On peut penser par exemple à Juliana Margulies, qui a quitté The Good Fight pour des raisons financières. De son côté, l'acteur Jeremy Renner a dit que ce n'était pas là son problème. Sympathique, vraiment très sympa. On parle égalité de paiement, on parle de faire de l'argent, on dit combien on est rémunéré par les marques. Les pays anglo-saxons et protestants, on peut le noter, ont un rapport assez spécifique à l'argent. C'est quelque chose qui peut être transformé en fierté, voire en revendication. Ce n'est pas honteux comme ça peut l'être en France, où il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Des rappeuses américaines n'ont pas hésité, elles aussi, à montrer qu'elles avaient de l'argent à égalité de leur homologue masculin. Et là encore, c'est un enjeu d'appropriation de soi, c'est un enjeu de transformation de sa propre existence comme source de puissance. C'est quelque chose qui est très sensible à la fois dans la manière dont elles vont se mettre en scène, mais aussi la manière dont elles vont faire récit de cet objectif-là. L'objectif de faire de l'argent, on peut penser notamment aux stars que sont Cardi B, on peut penser aussi bien sûr à Beyoncé qui en parle dans ses chansons. À l'inverse, puisque l'opprobre et la honte ne sont jamais très loin des femmes qui prennent la parole et qui s'affirment, on juge que cela est vulgaire, que cela est trop facile, que cela ne relève pas véritablement de l'art, qu'elles ne sont pas des artistes, qu'elles sont des businesswomen, et que tout cela n'est pas très agréable, que tout ça ne fait pas très bon ménage.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf ?
Alors pour ma part, ce que je vous recommande cette fois-ci, c'est une exposition. Une exposition qui a pour titre, un beau titre, Diva, donc Soumah Dalida, qui se tiendra à l'Institut du Monde Arabe. Alors c'est une exposition qui rend un hommage unique aux plus grandes femmes artistes de la musique et du cinéma arabe du XXe siècle, avec notamment une exposition événement qui célèbre à la fois leur héritage et leur contribution à la vie artistique et culturelle des nations en question. Et à ce titre-là, Clémentine et moi en ferons un court épisode pour vous parler de cette exposition.
Merci pour ce teasing. Moi, de mon côté, je vous recommande bien entendu le nouveau film de Céline Sciamma, Petite Maman, mais aussi le nouveau livre de la journaliste Fiona Schmidt aux éditions Hachette. Il s'intitule « Comment ne pas devenir une marâtre, guide féministe de la famille recomposée ». Je pense que c'est un très bon guide à mettre entre toutes les mains des personnes comme moi, qui sont trentenaires, puisqu'on est souvent face à cette situation qu'on n'est pas belle-mère, souvent par choix, mais c'est plutôt subi. Et donc, dans cet ouvrage, elle déconstruit une à une toutes les idées reçues et très souvent misogynes sur les belles-mères et la compétition entre les femmes. Voilà, je vous le recommande.
Allô,
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 allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute?
Alors cette semaine, on a reçu une question d'auditeur sur Instagram. Quel livre conseillez-vous pour comprendre l'histoire de France d'un point de vue féminin ? Kaoutar.
Alors, d'un point de vue féminin ou d'un point de vue féministe ? c'est pas exactement la même chose. Mais on va peut-être conseiller à la personne qui pose cette question de se procurer rapidement un ouvrage qui me semble assez important sur la question. C'est l'ouvrage de Yannick Ripa, ouvrage qui est intitulé « Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil ». C'est un livre qui est dense, effectivement, mais qui peut permettre de balayer du regard un horizon assez vaste et de découvrir de nouvelles ressources et de décider à partir de là d'aller plus en profondeur pour comprendre les choses. Mais effectivement, c'est un domaine et c'est une question qui est plutôt intéressante puisqu'elle pose la question de la narration, elle pose la question des subjectivités, elle pose aussi la question des personnages qui continuent à exister après leur mort, et ces personnages qui survivent, qui sont immortels, ce sont souvent des personnages historiques masculins. Donc c'est peut-être effectivement l'occasion de revenir ici sur des personnages historiques féminins qui ne sont pas moins importantes, bien au contraire.
Oui, et on me glisse dans l'oreillette que le prochain livre de Titiou Lecoq s'intéressera aussi à cette question-là, oui. Et je crois qu'il va sortir à la rentrée. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais.
Quant à nous, je pense que c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez nous écrire pour nous parler, par exemple, de votre rapport à l'argent, vous nous trouverez sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous trouverez également toutes les références dans le descriptif de l'épisode et vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ce qui nous aide à être très bien référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où l'on parlera du moche. Et oui, merci, salut Kaouta.
À bientôt.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Kaoutar Archi,
mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.